autres. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
Cube Radio.
Bon après-midi, bienvenue. Alors que Mario poursuit ses vacances dans la grisaille et le froid, va faire peut-être un petit peu plus beau par contre dans les deux prochains jours. On lui souhaite, on nous le souhaite aussi. Évidemment, beaucoup de choses dans l'émission, c'est très chargé, mais il y a un point de presse qui marque l'actualité, qui est d'ailleurs toujours en cours. Vous l'avez entendu dans les dernières minutes avec Geneviève et Alexandre, mais Régis Labeaume qui confirme ce qu'on attendait un peu depuis un certain temps, soit qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections municipales. Donc, en novembre prochain, c'est la fin. Pour quand même d'une ère à Québec, là, ça fait 14. Ça va faire 14 ans à ce moment-là que Régis Labeaume est arrivé comme maire de Québec. Faut dire en succession un peu dans la tourmente après le décès soudain de la mairesse André Boucher. Et je vais vous faire entendre comment il a annoncé tout ça. C'était assez clair et net. Il est rendu là. On peut entendre M. Labeaume.
Alors, j'annonce que je ne serai pas candidat aux prochaines élections municipales à Québec. Novembre prochain sonnera la fin de ma carrière politique. Mon temps est fait et j'aspire à une autre vie. Un vieux proverbe géorgien dit que le temps ne compte pas pour ceux qui l'ignorent. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, ignorer le temps. Et je n'en ai aucun regret. Mais pour celui qui me reste, je veux en reprendre le contrôle, le savourer. Parce que là où j'en suis, on ne sait jamais combien il nous en reste du temps. Cette annonce me soulage et je sais qu'elle soulagera les miens et qui sait, peut-être mes opposants.
Il a commencé donc comme ça son point de presse, Monsieur Labeaume, mais ça m'a permis, il faut dire, il est pas décédé, alors on peut aussi le critiquer. On va commencer déjà à faire des bilans de ses 14 dernières années à Québec. J'essaie de le faire moi-même. J'ai été sur la couverture municipale pendant un certain moment à la Radio de Québec, donc je connais quand même bien Monsieur Labeaume dans ses débuts. Après, Régis Labeaume donnait plus d'entrevues, là. Alors on l'a très très peu revu par après. Il était très très difficile à avoir. J'ai essayé pendant des années, mais ça devenait beaucoup plus difficile, ce qui n'était pas le cas nécessairement au début. Et j'essaie de voir un peu les meilleurs coups et les pires coups de Régis Labeaume à travers les années, parce que évidemment son passage à Québec aura été marquant, entre autres dans les bons coups, là, l'amphithéâtre qui est vu peut-être pour un mauvais coup pour certains à l'extérieur de Québec, mais c'était une infrastructure qui était nécessaire selon moi à Québec, et surtout un chantier qui aura respecté à peu près là ses coûts. Là, c'était 400 millions, ça a coûté 400 millions. On a un peu coupé là sur l'aménagement extérieur, là, mais en gros, il n'y a pas eu d'explosion de coûts dans ce chantier-là qui a été bien serré. L'élargissement de certains axes routiers à Québec, et là, je sais qu'il y en a, ils disent, ben là, c'est le transport en commun qu'il faut. Oui, mais c'est jamais là à Québec. Et on a élargi des gros chantiers qui sont pénibles, là, mais qui étaient nécessaires. Surtout aussi, une voie plus forte pour Québec. Là, si vous vous souvenez, le jeu politique là, a donné beaucoup, beaucoup de poids à Québec dans les dernières années parce que Labeaume emmenait tellement à large qu'il faisait peur au gouvernement de la provinciaux, surtout au gouvernement de la provinciale, de sorte que les libéraux ont sorti là, le chéquier pour payer un paquet d'affaires à Québec, le gouvernement de la CAQ aussi, parce que tu voulais pas te mettre Labeaume à dos, parce qu'il y a une grande gueule et veut pas, ça a un impact. Alors, ça a permis d'ouvrir les coffres des gouvernements. Aussi, j'ai trouvé dans les derniers mois, sa gestion de la pandémie a été excellente, avec beaucoup de sensibilité, de cœur. Il y a eu les haltes, chaleur et tout ça. Je pense que ça a été un maire assez actif. Et aussi pendant, et d'ailleurs il vient tout juste d'en parler, à travers les deux pires drames qu'a traversé Québec dans les dernières années, et même dans son histoire, là, la fusillade de la mosquée, évidemment, qui a été une journée horrible dans l'histoire de Québec, et l'Halloween là, dernier, où on se souvient de ce fou furieux au katana qui s'est mis à tuer des personnes sur son passage. Labeaume a réagi avec beaucoup, beaucoup d'empathie, de cœur. Je me souviens que ça a été, même s'il était très ébranlé. Parce qu'il a fait du bien aux gens de Québec là-dessus. Et particulièrement, on se souvient, la communauté musulmane à Québec qui avait été marquée par cette horreur-là. Je vous le fais entendre. D'ailleurs, il était encore émotif en parlant de ses peut-être les deux pires journées de son mandat de 14 ans.
La mosquée, c'était terrible, terrible. C'était surnaturel. 31 octobre, c'était tellement violent. Oui, la mosquée, c'était violent, mais dans les deux cas, il y avait de la folie associée à ça. Mais en tout cas, ces deux bouts-là, là, tu portes plus à terre. Là, faut que tu t'accroches quelque part, puis tu réfléchisses, puis il faut que tu te mettes au neutre pour bien comprendre ce qui se passe. Puis c'est toujours la même inquiétude. Hein. Comment les gens vont percevoir la ville après, t'sais?
On fait un retour sur cette période très pénible à Québec. Sinon, parce que là, j'ai lancé quand même des fleurs à Régis Labeaume. Il n'y a pas juste ça, il y a des pots quand même. Et le transport en commun, on va voir le futur avec le fameux tramway, comment ça va aller. Mais on sait que Labeaume, qui a été anti-tramway pendant longtemps, qui a été soudainement pro-tramway après avoir été élu, le dossier du SRB qui s'est planté. On verra là si le chantier va bien et on le saura peut-être dans 10-15 ans, là, si le projet Labeaume de tramway est un succès ou pas. Et sinon, le gros point négatif de Régis Labeaume, c'est qu'il est d'un, il est pas parlable, et de deux, il est toujours en tabarnak. C'est pour avoir couvert le municipal, la population s'en rend compte un peu, mais en point de presse, c'est vraiment difficile. Je sais que les gens se foutent un peu de comment les journalistes se font traiter de nos jours, mais Régis Labeaume, il est méprisant, il est insultant, il est irrespectueux des journalistes et surtout de ses adversaires politiques aussi. C'est tout le temps ça, là. L'opposition, on n'a pas toujours eu d'excellentes personnes à l'opposition, mais il n'y a pas grand monde de très bons et talentueux qui a le goût d'aller se pointer là pour se faire insulter, mépriser par Régis Labeaume à longueur de conseils municipaux, de sorte que les bons, ils sont partis. Je dis pas qu'il en reste pas, là, mais c'est difficile. Il les traite comme de la merde, on va se le dire. Et il avait dit à une certaine époque, mais l'opposition, là, ça va être à l'intérieur de mon parti, de l'équipe Labeaume. C'est jamais arrivé. N'importe qui dans son parti qui dit contre Labeaume, va faire rire de lui. Alors ça a été. Et je pense que ce genre de milieu-là, un peu toxique, on est tanné là, de ce genre de politique-là. Ça peut fonctionner. Puis entre autres, Monsieur Labeaume se fait élire sans problème pendant 14 ans. Mais ça, c'est lourd. Et pour avoir couvert le municipal, c'est pénible. Tu peux être un journaliste là. Que Labeaume prend en grippe parce que tu poses pas les questions que lui souhaite, ben il répond plus à tes questions. De sorte que éventuellement tu te fais tasser. Alors tu risques de perdre ta job parce que t'as plus de cote, tu te fais plus répondre par Régis Labeaume parce que il les aime pas. Et ça, j'ai vu quand même ça souvent. Et mon expérience la plus loufoque avec une idée de Régis Labeaume, ça me revenait des boules à mythe, je m'en souvenais même plus, Clotaire Rapaille. Là. Vous vous souvenez peut-être, je me souviens même plus en quelle année, un peu après les fêtes du 400e, où d'ailleurs, faut donner les fleurs à Labeaume qui avait remis le 400e sur les rails, ça s'en allait complètement dans le mur et il avait permis de sauver ses festivités. Là, je lui donne, mais après Clotaire Rapaille, une espèce de monsieur là qui devait faire le code de Québec, le gars qui avait fait le design de la PT Cruiser, un des chars les plus lettres jamais conçus, et qui était une fumisterie là, on va se le dire, son CV avait été embelli, il est arrivé, on l'a payé 300 000 $ pour trouver le code de Québec. C'était complètement ridicule. Et lorsqu'on confrontait Labeaume avec ça, il pétait les plombs. Et j'ai même fait, moi, on avait invité les journalistes à un atelier de Clotaire Rapaille. Et là, on nous couchait sur un petit tapis. Et là, il y avait une dame asiatique là, qui nous criait des affaires. Il y avait de la musique. Là. Fallait écrire nos souvenirs de Québec. Là, je me souviens plus exactement, mais là, il y avait des journalistes à Québec qui étaient, là, ils trouvaient ça fantastique, ce qu'on venait de vivre. Moi, j'avais juste le fou rire que j'essayais de contrôler parce que c'était tellement ridicule ce qu'on vivait, là. Tout le monde, imaginez-vous tous les journalistes de Québec, là, couchés sur des petits tapis avec une musique de méditation qui crient leurs souvenirs de Québec. Puis là, on mettait des noms, puis là, on essayait de trouver un code Québec. C'était n'importe quoi. Finalement, on s'en est rendu compte plus tard, ça avait fait un petit scandale à l'époque. Mais lorsqu'on confrontait Labeaume en disant, voyons, c'est ridicule, ce qui Clotaire Rapaille, ça n'a pas de sens. Et il pétait les plombs parce que c'est nous qui comprenaient pas. Et lui, évidemment, avait tout compris. Donc, ça a été difficile par moment. Mais Il a fait donc quand même du bon, donner une voix à Québec, une autorité aussi. Je pense que Québec a plus de voix qu'il en avait avant grâce à Régis Labeaume. Alors, disons, vous pourrez faire votre propre bilan. Il sera là jusqu'en novembre prochain. Il va surveiller, entre autres, le début du chantier du tramway. Alors, à suivre. Alexandre, bonjour.
Bonjour, Vincent.
Ça va bien?
Oui, ça va super bien. Tu m'as fait plein d'anecdotes, découvrir plein de trucs que je savais pas.
Oui, mais il y a eu une époque, il y a eu des moments particuliers dans l'histoire de Québec. Moi, qui avais André Boucher, je l'aimais beaucoup. Je viens de Sainte-Foy. Je la détestais quand elle était... J'étais enfant, là.
La famille l'aime pas, donc tu l'aimes pas.
Ouais, peut-être. André Boucher, quand elle était mairesse de Sainte-Foy, mais quand elle a été mairesse de Québec, je l'adorais. Elle est décédée, évidemment, soudainement. Ça avait vraiment ébranlé la ville. Et c'est à ce moment-là que Régis Labeaume était arrivé, rafraîchissant, à ce moment-là, un discours rafraîchissant. Alors, ça va se terminer dans quelques mois. Dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on commence par les cas?
On commence toujours par les cas, hein. Ça rentre bien. Ça a monté un tout petit peu, 915 cas aujourd'hui, mais on reste en bas, là, de la barre psychologique, si on veut, des 1000, 6 personnes de moins qui sont hospitalisées, 3 personnes de moins aux soins intensifs. Donc, dans les chiffres importants, ça demeure quand même là, à la baisse. Donc, tout va bien de ce côté-là. Montréal, 255 cas. Chaudière-Appalaches, encore haut, en haut de 100, 120 cas, toujours. Donc, on continue à surveiller ces zones-là. Mais pour le reste, il n'y a pas de pic impressionnant, vraiment. Là, on est plutôt dans la moyenne des cas.
Oui, je regardais par rapport à la semaine dernière, on est presque 200 cas de moins. Donc, ça a recommencé un peu à baisser, si on va souhaiter que ça reprenne cette tendance-là. Mais on est peut-être moins sur un plateau, là, parce que c'est un plateau à la baisse, du moins. C'est
une pente douce.
C'est mieux que de monter, ça c'est clair. Un mot sur l'Ontario, parce que ça s'améliore un peu.
Un tout petit peu. Parce que là, ça fait 2 jours de suite qu'ils ont des cas en bas de 3000. C'est encore beaucoup, là. Il y a 2941 nouveaux cas aujourd'hui en Ontario. Le nombre de décès qui a presque doublé par rapport à la veille. 44 décès de plus. Donc, c'est vraiment... C'est des gros bilans. Mais pour le reste, ça continue à descendre. Ça fait du bien dans ces zones-là. Les médecins de l'Ontario, au départ, là, on le disait, on s'attendait à la pire catastrophe. On parlait le système de triage aux soins intensifs pouvait être mis d'un jour à l'autre en place. Tout d'un coup, qu'on avait besoin de trier entre une personne puis une autre qui aurait un respirateur. Pour l'instant, il semblerait qu'on n'aura pas besoin de ça. Si la tendance se maintient, tout va bien, il n'y aura pas de choix entre qui vit et qui meurt. Il y a un plafonnement en ce moment du nombre de patients aux soins intensifs surtout. Il n'y aura pas de ce protocole-là pour l'instant, mais évidemment, les modélisations, là, les projections qui demeurent quand même très inquiétantes, dit-on en Ontario, si la situation continue pas de baisser et de baisser rapidement. Donc on reste sur le fil du rasoir si on veut, mais c'est des bilans encourageants quand même aujourd'hui.
Nouvelle quand même majeure concernant les jeunes qui attendent aussi pour être vaccinés le plus rapidement possible. Il n'y avait pas de vaccin autorisé, mais là, ça change.
Oui, maintenant, le Pfizer, le feu vert a été donné par Santé Canada. Les jeunes de 12 à 15 ans qui vont pouvoir recevoir donc le vaccin Pfizer. Ça suit les États-Unis parce que hier, eux l'ont approuvé de la même manière. Depuis le 16 avril, le Pfizer qui avait offert son examen complet, son examen scientifique à Santé Canada sur le groupe de vaccination complète de 2260 adolescents de 12 à 15 ans sur lesquels il avait fait les tests, l'efficacité du vaccin est de 100% dans ce groupe d'âge-là, dans les tests qu'ils ont fait. Donc, il serait efficace.
Ça marche.
Chez les jeunes, oui. Parce que c'est quand même 20%, là, on n'y pense pas, mais c'est 20% des cas de COVID qui sont signalés chez les jeunes de moins de 19 ans, même s'ils sont moins à risque de développer, évidemment, toutes les complications qu'on connaît de la COVID, moins de chances de mourir. Propage quand même la COVID.
Oui, mais j'en voyais comme sur les réseaux sociaux qui étaient surpris de donner des vaccins à des adolescents, mais on se fait vacciner, c'était à l'adolescence, moi je me suis fait vacciner à peu près tous mes vaccins, là. J'ai peu de vaccins à l'âge adulte, alors c'est très habituel vacciner des jeunes, même souvent dans le milieu scolaire.
Avant, là, l'autorisation pour Pfizer, pour vous donner une idée, depuis le 9 décembre 2020, c'était les gens âgés de 16 ans ou plus qui pouvaient le recevoir, donc maintenant, ça descend. Au Québec, on évalue la possibilité de vacciner les 12 à 15 ans d'ici le 24 juin, mais du côté du ministère de la Santé, on dit attendre des recommandations du comité sur l'immunisation.
L'archevêché de Montréal dévoile sa politique contre les abuseurs. Donc, un paquet de recommandations qu'ils vont mettre en œuvre.
Oui, qui suivent évidemment le rapport Capriolo, en novembre dernier, qui avait blâmé là, sévèrement les pratiques de l'Église catholique. Entre autres, là, parmi toutes ces recommandations-là qui vont être mises en place dans cette stratégie, il y a la création d'un poste d'ombudsman qui va être autonome, indépendant de l'archidiocèse et qui va devoir, là, entre autres, là, faire le suivi de toutes les plaintes, de documenter tous les abus d'abus qui vont suivre les cas d'abus sexuels ou physiques à la DPJ. Maintenant, c'est une obligation. Ils doivent être rapportés. Pour l'instant, c'est l'avocate Marie-Christine Kirouac qui va occuper ce poste-là. Ils vont accompagner également les plaignants. On dit toute la démarche. Vraiment, les victimes des actes, les plaignants vont être accompagnés. Il va même avoir des fonds qui vont être débloqués pour les accompagner dans d'éventuels traitements également. Même que à la réception d'une plainte, l'ombudsman lui va transmettre les éléments de preuve à un comité consultatif. Comité consultatif qui va être extérieur à l'Église, qui va devoir comprendre. Là, c'est assez étoffé, là. On parle minimum d'un psychologue ou un travailleur social, un avocat, un professionnel de la santé, un ancien policier ou un procureur de la couronne et un survivant d'abus. Déjà parmi ce comité là. Donc c'est vraiment là très très étayé là comme mesure qu'on tente de prendre. Le comité qui doit traiter la plainte rapidement, si ça a besoin d'aller devant un tribunal, ça va devant un tribunal. Puis une fois les enquêtes qui sont terminées, ils doivent faire leurs recommandations à l'archevêque à ce moment-là. Fait à noter aussi du côté de l'ombudsman, c'est pas seulement les plaintes d'abus sexuels et physiques, bien évidemment ça concerne ça, mais aussi abus psychologiques, spirituels et financiers aussi. Donc, c'est une autre variable intéressante.
Valérie Plante se préoccupe des fusillades dans le nord de la ville.
Oui, dans une réunion du comité exécutif ce matin, là, elle a parlé de vouloir travailler pour augmenter les budgets qui sont alloués aux escouades mixtes, entre autres, là, en différents paliers de police, pour mieux contenir, évidemment, là, la violence par arme à feu qui sévit dans le nord de Montréal. Ils veulent avoir une force de frappe plus importante. Puis elle a expliqué aussi que le service de police de la ville de Montréal, le SPVM, a augmenté depuis certains temps le nombre de policiers dans le secteur. On parle de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord et Saint-Léonard, bien évidemment. Il y a aussi l'équipe là, maintenant là, qui est dédiée à la lutte contre le trafic d'armes, la ELTA, qui est donc déployée parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de violence par arme à feu. Donc, il y a des mesures qui sont mises de l'avant, puis il devrait peut-être y avoir d'autres annonces à suivre dans ce dossier-là.
Des gens qui s'inquiétaient de ne pas avoir de Saint-Jean, et à Montréal, ce sera une Saint-Jean inversée.
Saint-Jean inversée, on dit un défilé inversé pour pas tout dire. C'est un soutien financier de 105 000 $ qui va être donné au comité de la fête nationale de la Saint-Jean par la ville pour aménager 5 installations artistiques dans le quartier des spectacles. Donc, à la place d'être tous installés sur le bord de la rue, en voir un défilé passer, ça va être les gens qui vont se rendre devant le défilé immobile, si on veut, que vont être ces installations artistiques-là qui vont être déployés du 20 au 24 juin prochain. Il va y avoir aussi une exposition à ciel ouvert portant sur l'histoire de la fête nationale. Donc, ça va permettre de fêter, si on veut, dehors, à distance. La place des spectacles, c'est très grand. Donc, ça va pouvoir se fêter, mais comme on dit, c'est pas un défilé inversé.
L'histoire du méga fitness gym continue à faire couler un peu d'encre parce que on se rend compte qu'ils avaient été mis à l'amende deux fois.
Ouais, à deux reprises avant l'importante éclosion là qu'on connaît maintenant, là, qui a fait, on le rappelle, infecter plus de 500 personnes et directement et indirectement. Il y avait des dénonciations qui avaient mené au SPVQ, le service de police de la ville de Québec, à intervenir deux fois. On parle du 16 juin et du 4 novembre 2020. Donc, l'année dernière, déjà, les policiers qui s'étaient rendus sur place et qui avaient fait des constatations, il y avait des manquements dans les mesures sanitaires. Donc, déjà, le propriétaire du gym qui a la possibilité de plaider coupable, payer les amendes, qui varient, on le rappelle, entre 1 000 et 6 000 $ pour avoir refusé à ce moment-là de suspendre ses activités. Donc, s'il plaide pas non coupable, il va y avoir, ça va être au juge de trancher le dossier. Donc, il semblait que c'était du récidivisme la dernière fois.
Il y a une paix relative sur les réseaux sociaux au niveau politique américaine parce que Donald Trump est banni de tous les réseaux sociaux. Et pour Facebook, ça va durer finalement.
Ouais, ça va durer, mais disons-le, ça va durer pour l'instant. C'est l'espèce de cour suprême, le conseil de surveillance de Facebook là, qui a tranché là-dessus. Ils ont établi que bel et bien là, l'ex-président Donald Trump avait créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible. Et là, on cible directement ses commentaires publiés sur Facebook le 6 janvier, le jour, évidemment, de l'invasion au Capitole à Washington, que ses propos avaient encouragé la violence directement. Évidemment, du côté de la droite conservatrice américaine et un peu partout dans le monde, là, on crie à la censure. On dit que si le réseau peut interdire le président Trump, il peut interdire toutes les voix conservatrices s'il le veut. On rappellera, c'est une espèce de tribunal qui est fait de plusieurs membres, des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains, d'anciens dirigeants politiques. Ce sont 20 membres de partout au travers de la planète. Je sais pas exactement qui siège sur ce comité-là, mais évidemment...
Parce que c'est une patate chaude là, de trancher qu'est-ce qui peut être dit et pas dit. Je comprends que tu veux pas que ce soit dans les mains de Facebook, mais dans le cas de Trump, c'était... c'était rendu trop loin. Là.
Ouais.
Il
n'y
avait pas le choix d'avoir une intervention.
Exact. Il y a une intervention, puis il y en a sur presque toutes les plateformes, justement, des réseaux sociaux.
YouTube. Le monde se porte mieux là, depuis que Donald est plus sur Twitter et Facebook.
Mais ça dépend, Vincent. Toi et moi, on se délectait de temps
en temps
d'un bon tweet.
Le monde est beaucoup moins divertissant, mais plus sécuritaire.
Plus sécuritaire maintenant, Donald Trump, qui, on le rappelle, est obligé d'utiliser ses fameux communiqués, statement en anglais,
ça a pas le même impact.
Qu'il relâche. Non, c'est ça, il fax ça, puis sont toujours écrits de sa belle plume qu'il utilisait lorsqu'il tweetait. Et ils vont devoir rendre une décision plus appropriée, plus ferme d'ici début novembre, Facebook, à savoir si finalement ils vont interdire définitivement la plateforme à M. Trump, l'autoriser à revenir ou encore resuspendre pour une nouvelle période indéterminée son compte.
Bon, et on termine avec une console de jeu qui est à vendre, mais qui est spéciale.
As-tu déjà été un fan de la Nintendo Wii, Vincent?
Dans un an, là.
C'était nouveau. Ben, comme tout le monde.
Ouais,
hein? Tout le monde
a été
fan
de le tennis, là. Tu joues au tennis.
C'est le
fun. Ma mère a le petit step, là, pour faire.
Wii Balance. Wii Fit? C'est peut-être le Wii Fit.
Tu peux faire plein de jeux, puis battre des ailes, puis on a eu bien du fun, là, avec des parties de Noël. Mais, c'est ça. C'est passé.
Mais en ce moment, Vincent, sur eBay, il y a une console Wii qui est à vendre, attache la tuque, à 300 000 $US en ce moment. Et c'est toute une histoire assez incroyable qui est ressortie de ça parce que c'est une console Wii 24 carats en or, plaqué or au grand complet, qui vient avec la Wiimote, là, la petite manette, en or, elle aussi. Et on dit que cette Wii-là a été fabriquée par la compagnie de jeux vidéo THQ en 2009 parce qu'ils ont appris que la reine Elizabeth II adorait jouer sur la Wii du prince William. Et ils lui ont fait faire une console Wii en or.
Okay.
Le problème, c'est que selon la loi, la famille royale, ils ne peuvent pas recevoir de cadeaux. Donc, THQ ont fabriqué une Wii en or pour aucune bonne raison à ce moment-là. Et ça s'est comme perdu dans l'histoire. Et là, on l'a retrouvé. C'est un homme des Pays-Bas, Donny Fillerup, qui est un collectionneur de toutes les consoles Nintendo. Il y a au-dessus d'une centaine là, de consoles d'édition spéciale, édition limitée dans sa collection. Il dit qu'il a acquéri cette console-là. À un certain moment donné, là, ça a été comme revendu par la compagnie. Il veut pas préciser d'où ça venait, mais en ce moment, il dit que même les courriels de Nintendo, les courriels de la compagnie THQ qui accréditent véritablement que cette console-là est bel et bien celle qui devait être offerte à la reine. Il vend ça 300 000, mais il y a même des experts qui évaluent qu'elle pourrait valoir jusqu'à 1 million de dollars US.
OK. Est-ce qu'on sait le poids de l'or?
C'est 24 carats.
Mais il vaut combien si tu fais fondre la console, si on le sait-tu?
Ça, c'est une bonne question. Okay. C'est pas su pour l'instant, mais comme je dis, c'est des experts là, qui ont évalué que c'était à peu près 1 million que ça pouvait valoir, cette console-là. Mais lui dit vouloir juste la vendre 300 000 $ parce qu'il dit, c'est le prix d'un appartement dans la ville où je reste. Je vends ça, je m'achète un appart, puis that's it.
C'est louche.
C'est quand même louche.
Mais bon, tu pourras faire ton offre.
Je vais aller faire mon offre tout de suite. Je veux la Wii en or.
Merci, Alexandre.